Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Dans un instant, le journal de la culture d'Hélène Manarino. Et puis ensuite, une sorte de best-of de l'année. Tous ceux qui, cette année, vous auront donné envie de découvrir un film, un artiste, un spectacle, un disque, une série ou encore une recette de cuisine. Tous ceux et celles seront avec nous en studio. Il y aura Louise Bernard, Angèle Châtelier, Margot Barallon, Mathieu Charrier et Laurent Mariotte. Bonjour Hélène Manarino.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
C'est le dernier journal de la culture de la saison, journal qui commence, Hélène, par un bilan de la rentrée littéraire.
Et oui, Livre Hebdo a annoncé le nombre de titres en septembre, 511 romans pour la rentrée littéraire, le nombre le plus faible depuis 1999, parce que l'offre des romans étrangers et les premiers romans sont en forte baisse, Philippe. Ces 511 romans seront publiés entre mi-août et octobre. En 2019, ils étaient 524.
Il y avait une polémique à ce sujet, Notre-Dame pourrait rouvrir, donc en 2024.
Et oui, le démontage de l'échafaudage de la cathédrale Notre-Dame sera achevé fin septembre. Le président de l'établissement, Jean-Louis Georgelin, a affirmé que la cathédrale pourrait rouvrir dans les délais en 2024, soit 5 ans après l'incendie. Cela ne signifie pas en revanche que les chantiers seront terminés.
C'était la date qui avait été annoncée par le président Macron.
Exactement.
Et en même temps, date qui avait été critiquée par certains professionnels, mais pas tous. Tout autre sujet, l'école du collectif Courtrage-Mé ouvre une section auteur.
C'est l'école du réalisateur des Misérables, Ladjly. Elle a été créée en 2018 en Seine-Saint-Denis. Une formation pour apprentis comédiens donc est bientôt ouverte. L'appel à candidature a été lancé sur le site de l'école. Les candidatures sont à déposer avant le 30 juillet. Ensuite, les talents seront répartis en 2 groupes formés pendant 1 an. Et la direction de la section a été confiée à Ludivine Sagnier, l'actrice. Ce sera un peu la directrice de l'école, finalement.
Bien.
Cette école est gratuite et sans condition de diplôme. Une nouvelle école a été ouverte également à Marseille.
Et justement, Pascal Clark qui va parler de Marseille lundi, possible qu'elle parle également de cette école. Plusieurs artistes, on traverse le Channel, plusieurs artistes se mobilisent pour sauver la musique britannique.
Et ils sont presque tous là, les Rolling Stones, Eric Clapton, Sam Smith, Liam Gallagher, Depeche Mode, Philippe Vandel. Petite blague. Et il en manque quand même un, monsieur Paul McCartney. Ils ont adressé une lettre ouverte au ministre de la Culture, Oliver Dowden. Petit accent pour vous. 1500 artistes et personnalités du monde de la musique demandent au gouvernement de Boris Johnson d'agir et de manière urgente. Beaucoup d'entre eux devaient se produire sur scène, notamment lors de festivals, mais tout a été annulé. Je rappelle qu'au Royaume-Uni, la pandémie a fait près de 44 000 morts, soit le plus lourd bilan d'Europe. Alors pas de mesures à l'horizon pour les concerts, pas de soutien financier, parce que le soutien du gouvernement est quand même crucial. Les signataires demandent un calendrier pour la réouverture des salles, un plan de soutien, un dispositif de crédit, ainsi qu'une exemption totale de la TVA sur la vente des places de concert. Le secteur culturel représente 200 000 emplois. Tous sont très impatients de retourner sur scène. Liam Gallagher demande que l'on prenne soin de l'industrie des concerts et des gens, je cite, formidables. Pourquoi vous riez?
Parce que Liam Gallagher qui demande qu'on prenne soin, il s'est tapé avec son frère, ils sont boxés avec son frère dans les coulisses. C'est-à-dire, qui me parle? Liam Gallagher, qui parle de soin.
Liam Gallagher.
Tout à fait autre chose, en Airbnb sur le thème Harry Potter.
Une villa totalement inspirée de l'univers de J.K. Rowling. Les 8 chambres ont des décors tirés du film, notamment les 4 maisons de Poudlard, Gryffondor, Serpentard, Serdaigle et Poufsouffle. C'est Poursouffle, pardon, pas Poufsouffle. Poufsouffle, n'importe quoi. Cette scène se situe à Orlando, en Floride. 16 voyageurs peuvent être accueillis.
Termine, hein.
Non, c'est fini, moi j'arrête mon journal. Il y a une salle de jeu sur le thème du Quidditch, une pièce de cinéma, une salle à manger inspirée de la grande salle de Poudlard. Un jeu de piste est également mis en place pour retrouver 7 objets cachés dans la maison. Bon, tout est déjà complet jusqu'à fin août.
Et on termine ce journal comme souvent, et c'est tant mieux, en musique.
Tu sais pourquoi, cocotte, je suis un machiste alors. Et je sais qu'elle m'adore. Non, 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 y a pas de l'or. Ah, oh, machiste alors.
Avec le chanteur M, évidemment, le roi des lives pendant le confinement. Enfin, un des rois de la musique française quand même, hein, je le dis ce matin. C'est l'un des premiers à avoir donné des concerts en direct de son salon. Eh bien, ces lives faits maison arrivent sous forme d'album le 9 juillet sur les plateformes. 35 enregistrements issus des lives donnés entre les 21 mars et 28 mai 2020. Le grand petit concert maison. Il y aura quelques surprises également.
Merci beaucoup Hélène Manarino. Merci pour cette saison
merci
en votre compagnie. Ce fut un régal. Vous serez là la saison prochaine.
Évidemment.
Vous démontez pas.
Non.
Parce que je pose la question. Parce que j'ai cru comprendre que dans le journal de la culture, c'était votre spécialité.
Philippe, allez-y, je vous laisse annoncer de qui il s'agit parce que je sais que ça vous fait plaisir.
Mais bien sûr, le retour de Daft Punk, le retour annoncé de Daft Punk.
7 ans après leur succès Get Lucky, le duo français revient à... Et oui Philippe, je vous annonçais lundi que les Daft Punk étaient de retour, mais finalement non.
Tout autre sujet, un biopic sur Johnny Hallyday serait en préparation.
Ce film retracerait donc la vie du taulier. Alors c'est un projet du réalisateur Olivier Marchal. Hier, je vous annonçais la préparation d'un biopic sur Johnny Hallyday. Alors il a été annoncé que ce projet était validé par Laetitia Hallyday, mais dans un communiqué, la jeune femme dément totalement.
Non.
Elle n'est tout simplement pas au courant. Le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a affirmé que la franchise, voilà, il allait avoir un personnage transgenre, il serait dans le film qu'ils sont en train de tourner.
Vendredi dernier, vous nous annonciez qu'il y aurait un personnage transgenre chez Marvel. Finalement, non.
Eh bien non, et ce n'est pas de ma faute.
Et alors, pour terminer ce journal, je l'annonce, mais je sens le démenti, vous l'annoncez quand même, une grande chanteuse qui elle-même annonce une pause dans sa carrière.
Elle a failli faire une pause, mais le démenti a été fait dans Culture Média. Ça faisait longtemps. Un démenti, tiens.
Et pour terminer, Hélène, il vous arrive également, il faut le dire, de ne pas faire de démenti, mais de confirmer une info.
Hello Adèle, goodbye Adèle. Oui, puisque j'essaie de faire une petite blague que je viens d'inventer. Hein.
Ouais.
Elle devait, on me dit qu'elle est drôle.
On vient de me dire qu'il était démenti que votre blague soit drôle. Merci beaucoup. J'adore. Merci beaucoup Hélène Manrino.
Merci beaucoup.
Pour ce...
C'est
alors,
bien
il faut que j'explique. Faut que j'explique aux auditeurs.
Journalistique.
Non, il faut que j'explique aux auditeurs. Le travail journalistique d'Hélène Manrino n'est pas à mettre en doute. C'est qu'en fait, les stars annoncent des choses qu'elles démentent le lendemain.
Ils sont imprévisibles.
Qu'on fait, vous savez la phrase géniale que disait Edgar Faure. Il disait ce n'est pas la girouette qui change de sens, c'est le vent.
Et ben
donc
voilà.
C'est un travail journalistique parfait. Merci beaucoup Hélène
merci
d'avoir été
vous,
avec nous.
Merci à vous, j'ai été ravie. Merci
cette
pour
saison,
cette saison
pareil.
Et merci à toute l'équipe de Culture Média parce que c'est un bonheur de travailler avec vous tous en régie. Donc merci beaucoup.
Dans un instant, en place à notre premier indispensable du jour, une sélection des meilleures séries sorties récemment. Ce sera avec Margot Barallon, mais d'abord musique. On en parlait avec Margot Lafitte, c'est Benjamin Biolay et le titre est tout trouvé, Grand Prix sur Europe 1. Benjamin Biolay et son titre Grand Prix, la chanson qui donne le titre à l'album. Petit hommage à Ayrton Senna. Dans un instant, place à notre premier indispensable du jour, l'envie de savoir quelles sont les meilleures séries sorties récemment. Margot Barallon a fait pour nous, pour vous, sa sélection, juste après ça.
Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Et c'est une sorte de best-of de florilège qu'on vous propose dans divers domaines jusqu'à la fin de ce Culture Média, c'est-à-dire jusqu'à 11h. On commence avec vous, Margot Barallon, bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Toute l'année, vous êtes intéressé aux séries et je vous ai demandé quelles sont vos séries préférées de l'année. S'il fallait en choisir qu'une ou deux ou trois pour les gens qui n'ont pas le temps d'en voir pendant l'année, quelles sont, selon vous, les meilleures séries récentes, Margot?
Eh bien, je vais commencer par une série française, politique, diffusée sur Canal+, c'est évidemment Baron Noir. Alors la saison 3 est sortie en février et c'est vraiment pour moi l'une des grandes réussites de ce début 2020. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, hein, l'histoire c'est celle de Philippe Rivard, ancien député maire de Dunkerque, incarné par Kad Merad. Donc Philippe Rivard, c'est un socialiste qui passe son temps à élaborer des stratégies pour faire élire les uns et tomber les autres. Bref, un vrai baron noir.
On dit qu'il est beaucoup inspiré son personnage de Julien Drey.
Tout à fait.
Qu'est-ce qui a été si réussi dans cette troisième saison? Je vais pas vous mentir, moi j'ai vu les deux premiers épisodes, mais pas la suite, et vous avez tout vu.
Oui, alors d'abord c'est vraiment une série très intelligente qui arrive, je trouve, à capter l'air du temps, les changements de société, par exemple la montée du populisme. Dans cette saison, il va y avoir un nouveau personnage, un youtubeur, qui propose tout simplement de supprimer les élections.
Les élus sont les pires d'entre nous parce qu'ils désirent le pouvoir. Et les élus sont aussi des menteurs parce qu'il faut mentir pour être élu et mentir encore pour rester élu.
Les élections, ce n'est pas la démocratie. La seule vraie démocratie,
c'est le tirage au sort. Le tirage au sort ne donne pas le pouvoir à ceux qui le veulent. Le tirage au sort rend le mensonge inutile.
Voilà, alors quand on voit aujourd'hui la remise en cause de la démocratie ou qu'on se pose même la candidature de Jean-Marie Bigard en 2022, on se dit que la réalité a un peu tendance à rattraper la fiction.
Il a dit qu'il allait se présenter Bigard.
Oui, alors bon, c'est pas tout à fait clair, mais effectivement, ça pose question. Et alors, moi vraiment, ce que j'ai préféré dans Baron Noir, c'est quand même que ça reste une déclaration d'amour à la politique. Bien sûr, les personnages, ils ont des défauts, ils passent leur temps à magouiller, mais ils ont aussi un côté très humain. La série, elle montre à quel point c'est dur, la politique, à quel point vous vous en prenez plein la tête tout le temps. Ça demande des sacrifices. Et à la fin, vous vous retrouvez avec une série hyper émouvante, alors que c'est quand même très rare quand on parle de politique.
Exactement. Deuxième coup de cœur de vous, Margot Barallon, cette saison, Watchmen sur OCS, on entend le générique qui vient de démarrer.
Oui, alors changement de style radical. Hein. Cette fois, c'est une série américaine qui revisite un comics de super-héros, mais en imaginant que justement, les super-héros ont disparu parce qu'ils ont été interdits. Donc ce sont aux policiers de faire régner l'ordre et ils sont confrontés, on est dans le sud des États-Unis, à un groupe terroriste de suprémacistes blancs.
Bientôt la grâce qui s'est accumulée jusqu'à aujourd'hui sera nettoyée au jet. Et les rues de Tulsa se transformeront en caniveaux géants qui déborderont des larmes des gauchistes. Bientôt, toutes les putes et les traîtres à leur race crieront « Sauvez-nous !» Et dans un murmure, nous dirons « Non, nous ne sommes personne, nous sommes tout le monde, nous sommes invisibles. Et nous ne ferons jamais de compromis !»
Voilà, pas hyper sympa, hein, les suprémacistes blancs. Alors, ce qui est génial avec Watchmen, c'est d'arriver à respecter l'univers original du comics en réinventant complètement le propos. La série va aborder notamment donc la question de la race aux États-Unis qui n'a jamais été aussi brûlante. Mmh. Et puis, le point commun avec Baron Noir, oui, il y en a un. C'est que la série vous emmène sur des chemins inattendus. Vous partez avec des histoires de flics, de racisme systémique, et puis tout d'un coup, vous découvrez aussi une merveilleuse histoire d'amour. C'est vraiment d'une richesse impressionnante.
Et évidemment, la série a été écrite et tournée bien avant ce qui se passe,
oui.
Black Lives Matter aux États-Unis. Allez, un troisième, dernier petit conseil pour la route. Cette fois, c'est sur Netflix.
Et c'est même deux conseils en un. Allons-y, parce que Netflix propose donc beaucoup, beaucoup de séries, mais moi, j'ai vraiment un gros faible pour leurs séries documentaires, et notamment celles sur le sport. Donc, si ce n'est pas déjà fait, jetez-vous sur The Last Dance, la série sur les Chicago Bulls des années 90 et leurs joueurs phares.
Bon, bah pas besoin d'être connaisseur pour savoir que le plus grand joueur de basket de tous les temps, qui nous ont prêté pour un soir ce qui se rapproche le plus d'un dieu sur cette pauvre terre, Michael Air Jordan, s'il vous plaît.
Michael Jordan, hein, évidemment. Et donc le deuxième conseil en un, je sais que vous serez d'accord avec moi Philippe,
moi, j'adore,
c'est Drive to Survive, la série sur la Formule 1.
Les pilotes Red Bull avaient pris 10 ou 15 secondes d'avance sur moi. Ils se battaient l'un contre l'autre.
Ricardo fait tout ce qu'il peut pour doubler Max Verstappen. Mais Verstappen ne se laisse pas faire par son coéquipier.
Voilà, c'était un accident sur le circuit de Bakou.
Non, ils ont un peu forcé le son parce qu'on entend un bruit de pare-brise.
Oui,
il n'y a pas de pare-brise
évidemment.
Sur une F1. Mais tout est vrai, tout ce qui se passe est vrai. C'est pour ça que cette série est si dingue. Pareil pour Jordan.
Oui, et ce qui est génial aussi dans les deux cas, c'est que vous n'avez pas du tout besoin de vous y connaître pour regarder. Moi, le basket des années 90, j'ai rien suivi.
Pareil.
La Formule 1, c'est pire encore. Je déteste ça, contrairement à vous, Philippe. Et pourtant, j'ai adoré ces deux séries. Elles se regardent vraiment comme des téléréalités, en plus intelligent et en mieux filmé.
Donc Margot, si on récapitule...
Baron Noir sur Canal+, 3 saisons, Watchmen, une saison sur OCS, et les deux séries documentaires, The Last Dance, une saison sur Netflix, et Drive to Survive, deux saisons sur Netflix aussi.
Merci beaucoup Margot Barallon, j'arrive à le dire. Vous serez là pour la saison 2 de Culture Média ?
Ah bah j'espère bien.
Bah pareil. Culture Média qui continue dans un instant. Deuxième indispensable du jour, à parler cinéma avec Mathieu Charrier, les 5 meilleurs films selon lui de l'année. Et on va revenir sur les Césars, à tout de suite.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour Mathieu Charrier.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Margot
avec
Barallon
plaisir.
Est ici dans ce studio avec vous. Mathieu, on va tirer un bilan de cette année cinéma.
Ouais.
Les 5 films de l'année selon vous.
Alors, on va commencer avec le film de l'année pour moi. C'est 1917, signé Sam Mendes. On en avait parlé ici beaucoup, parce qu'en plus c'est un film dont nous étions partenaires à Europe 1. Je vous rappelle l'histoire en quelques mots. On va passer une journée avec deux soldats britanniques chargés de traverser les lignes ennemies pour porter un message à leurs troupes, annuler un assaut et tenter de sauver des vies.
Mais moi j'avais retenu aussi une performance.
Et bah, c'est surtout ça qui est intéressant. C'est que ce film est présenté comme un seul et unique plan séquence. Alors je le redis pour nos auditeurs, plan séquence, c'est-à-dire qu'on ne voit pas les coupes à l'écran. Évidemment, elles existent, vous ne pouvez pas filmer un film pendant 2 heures sans jamais couper la caméra, mais contrairement au film d'habitude où c'est assumé, vous vous retrouvez devant le personnage, derrière, sur le côté, etc. et ça se voit à l'écran que ça a été coupé. Là, c'est tourné comme si la caméra ne s'était jamais arrêtée de tourner. Alors, c'est pas que chichiteux, c'est-à-dire que c'est pas juste pour faire joli ou juste pour faire bien. Ça donne une sensation d'immersion dans l'écran qui est absolument incroyable, surtout sur ce thème. Vous avez vraiment l'impression de suivre ces deux soldats britanniques dans les tranchées. À un moment, il y a une explosion incroyable. Donc voilà, pour moi, c'est le film de l'année. Il y en a, c'est toujours difficile de sortir un classement, mais c'est un des films de l'année en tout cas. Parce qu'il y a cette performance-là. Et je signale d'ailleurs qu'il vient de sortir en DVD, 1917. Alors, évitez de le regarder sur un ordinateur ou sur un iPad avec un tout petit écran, ce sera un petit peu dommage. Ceci dit, les iPads ne lisent pas les DVD. Mais si vous avez de quoi le regarder dans de bonnes conditions, avec un bel écran, honnêtement, ça vaut le coup de le voir ou de le revoir en DVD.
Dans le top 5, un deuxième film américain placé par vous.
Joker, signé Todd Phillips. Parce qu'on en a beaucoup...
Todd Haynes. Joker, c'est le titre. Je croyais que vous ne vouliez pas me répondre.
Parce que avec Joaquin Phoenix, pourquoi ? Là aussi, on en a beaucoup parlé de ce film. Alors, il y a les pour, il y a les contre. Moi, je respecte tous les avis. Je ne sais pas si Margot l'a vu.
Oui, je l'ai vu.
Elle va me dire qu'elle est contre.
Oui, je suis contre.
Oh là là. Mais... Alors, d'abord Mathieu, ensuite Margot.
Je vais vous dire pourquoi ça fait partie. Je ne dis pas forcément que c'est le plus grand film de l'année, mais je trouve
déjà,
que...
Déjà, il met un bémol.
Regardez, il était écrit. Mais je trouve que c'est un film qui... raconte comme rarement notre époque. Et quand vous voyez qu'après, ce masque du Joker a été repris dans certaines manifestations à travers le monde, quand vous voyez ce qu'incarne Joaquin Phoenix à l'écran, c'est-à-dire cet homme broyé par la machine, par le monde d'aujourd'hui, je trouve que c'est ça aussi le cinéma et que ça doit être ça. Ça doit raconter une époque. Et pour ça, le pari de Joker est largement rempli. Après, on peut trouver que c'est un petit peu trop extrême parfois dans le jeu, que la performance, après, faut aimer ou pas Joaquin Phoenix. C'est là que je laisse la parole à Madame la procureure.
J'adore Joaquin Phoenix, mais effectivement, je trouve que quand on est vraiment trop dans la performance, ça finit par se voir. Moi, ce que je vois, c'est un acteur dans la performance plus qu'un personnage.
Parce que la performance, c'est quoi ? C'est qu'il a perdu 25 kilos pour le rôle.
Voilà.
Ou ça,
oui,
non,
mais c'est surtout les transformations physiques voilà. extrêmes. Et puis, voilà, il s'est cassé le genou en tapant dans une poubelle.
Dis donc, Madame la procureure. Voilà. Hein. Des films français dans le top 5 ?
Alors, d'abord, évidemment, Les Misérables de la Jli, parce que là aussi, il y a des imperfections dans ce film. Le film est sans doute un petit peu trop long, puis vous savez, c'est tourné très clippé. C'est le fameux court-trage-mais, ce collectif ouais. avec Romain Gavras, etc. Ils ont fait beaucoup de clips musicaux, etc. Donc, c'est tourné très clippé. Donc, il faut aimer ce genre de cinéma-là. Mais qu'on aime ou pas, c'est quand même le grand film sur la banlieue française qu'on attendait depuis très longtemps. Alors, à l'époque, Emmanuel Macron avait dit, après avoir vu le film, qu'il avait demandé à ses ministres d'essayer de changer les choses. On attend toujours. Mais en tout cas, voilà. Je pense que c'est le film français qui marquera cette année. Et je vais surprendre certains de nos auditeurs, mais le deuxième film français que je mets dans le top 5, c'est Au nom de la terre d'Edouard Bergeon, porté par Guillaume Canet sur le milieu rural. Pourquoi ? Là aussi, il y a des imperfections dans ce film. Là aussi, c'est pas le plus grand film de cinéma. Mais c'est tellement rare de voir un film qui raconte le monde rural. C'est tellement rare de voir un film qui met la difficulté des paysans à l'honneur. C'est tellement rare de voir ça au cinéma que je pense que ça vaut le coup de le souligner. Et surtout, ce qui est absolument dingue dans cette histoire, c'est que le film a frôlé les 2 millions d'entrées, 1 955 000, je crois, de tête. Mais il n'a pas du tout marché dans les grandes villes. C'est-à-dire que c'est un film qui a cartonné dans le monde rural, où tous les gens allaient voir ce film dans des petits cinémas de campagne qui faisaient vivre ce film. Et à Paris, ou à Cachemalou, personne n'y allait. Et ça, quand même, il y a un moment où on se dit, c'est un petit peu dommage que tout le monde se regarde le nombril et qu'on ne soit pas capable d'aller voir ce genre de film.
Et ce qui est très puissant aussi, nous qui faisons ici une émission d'information, c'est que c'est une histoire vraie. C'est que le cinéaste raconte l'histoire de son père qui est mort à cause d'avoir été en contact avec des produits chimiques et toxiques.
Exactement.
Et puis, votre dernier coup de cœur dans ce top 5, c'est un film d'animation,
ouais,
Mathieu.
La fameuse invasion des ours en Sicile, signé Lorenzo Mattotti. Pourquoi ? Là aussi, déjà parce que ça a été fait en France et qu'on a en France un vrai savoir-faire d'animation, notamment dans ma très belle ville d'Angoulême. Et donc il faut souligner ça et il faut défendre ça. Et qu'aujourd'hui, les films d'animation ont du mal à trouver leur public en salle parce que soit vous faites des films Disney ou Pixar qui attirent vraiment les familles, et là, ça marche. Soit vous essayez de faire des films un peu plus cinéma d'auteur, et là, vous avez du mal à rencontrer votre public parce que ça peut faire un peu peur aux familles d'emmener leurs enfants. Donc, je le redis, c'est un film formidable. Allez voir la bande-annonce pour voir un peu le graphisme, à quoi ça ressemble. Mais Lorenzo Mattotti, on n'est jamais déçu. Et c'est sorti en DVD. Ça aussi, là, pendant les vacances d'été, il faut occuper les gamins. Vous les mettez devant la fameuse invasion des ours en Sicile. Margot, vous l'avez vu ?
Oui, et c'est mon préféré de la sélection de Mathieu.
Vous voyez, on finit d'accord. C'est
Mais
pas formidable ?
Quel bonheur de terminer la saison ainsi. Culture Média qui continue dans un instant en place au troisième indispensable du jour. Ils sont nombreux avec Louise Bernard. En moins de 6 mois, elle a regardé 36 spectacles d'humoristes. Quel est son top 3 ? Suspense, elle nous le dit juste après. Ça.
Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Les indispensables qui continuent le florilège de best-of pléonasme avec Louise Bernard. Bonjour Louise.
Bonjour.
Alors chaque semaine ou presque, vous nous avez conseillé des humoristes à découvrir ou à redécouvrir ou à entendre. Là, c'est l'heure de votre bilan de l'année. Vous allez nous donner vos 3 préférés sur combien de spectacles ?
Alors 36 en moins de 6 mois, mais je compte ceux dans les salles uniquement parce que ça s'est arrêté en mars avec l'arrivée du Covid. Je vais être honnête, il y a des soirs où j'y allais par obligation professionnelle, fatiguée la semaine. Je traînais des pieds des soirs d'hiver que j'aurais préféré passer sous mon plaid blanc imitation laine de mouton. Mais non, je sortais, j'attendais de longues minutes dans le froid pour accéder à la salle, une salle parfois vide à cause des grèves. J'ai passé quelques heures à m'ennuyer, à bâiller discrètement en me cachant quand même par respect pour ces artistes qui osent ce que je serais bien incapable de faire. Donc oui, j'en ai vu des mauvais spectacles, du moins par mon goût, des humoristes qui peinaient à me décrocher un sourire. Et pourtant, je suis bon public, hein, vous me faites rire souvent. Philippe, mais ce que
prends ça dans ta face.
Mais cela, je n'en ai jamais parlé à l'antenne parce que le principe des indispensables, c'est de vous donner envie d'aller dans les salles, de découvrir des artistes, souvent jeunes, qui prennent le risque de monter sur scène, avec leurs propres textes parfois, leurs petits moyens souvent, et leur passion toujours. Il m'est arrivé de retrouver les mêmes styles de blagues d'un humoriste à l'autre. Alors la grande tendance de cette saison 2019-2020, c'était les sketchs sur les véganes qui n'ont plus d'énergie, à égalité avec ceux sur Aya Nakamura qui chantent des paroles qu'on ne comprend pas.
Stop, 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 Pookie. Ferme la porte de Pookie dans le test. Tu sais, d'habitude, les chanteurs, ils trouvent une chanson, ils la font en yaourt, après ils écrivent des paroles et ils enregistrent la chanson. Elle donne en yaourt, rien à foutre. Elle vient, elle fait Smith, bafou, Smith, plus. Elle est hop, c'est un tube, rien à foutre.
Non, mais là, c'est drôle. Là, c'est drôle, on est dans le studio, on rit tous les
bien
trois,
sûr.
Tous les quatre.
J'ai pas dit que c'était pas drôle, ouais. J'ai dit qu'on le retrouvait souvent, voilà. Ce sketch, c'est
ça,
pas...
Ça, c'était Kev Adams. Donc, il voilà. Y a beaucoup de gens qui ont copié Kev Adams. Alors, heureusement, il y en a qui nous ont beaucoup plu. Ouais.
Oui, l'immense majorité. Et justement, quand on voit beaucoup de spectacles, l'humoriste qui parvient à surprendre par son originalité, c'est le Graal, c'est là que la magie opère. Et ça a été le cas de Laurence Yama, qui est brillant dans son spectacle féministe intitulé Bonhomme. Vous êtes comme face à un ami qui vous embarque dans ses réflexions et ses digressions, notamment celle sur Roger Cavaillès, le savon pour les parties intimes féminines. C'est mon meilleur souvenir humour de l'année. Ouais. Oui, non, mais il faut aller le voir. Je vous passe pas d'extrait, je vous laisse aller voir, rien
mince,
pour ça.
Mince, on a envie.
Mais d'ailleurs, il fait partie de ces humoristes pour lesquels c'est un peu ingrat de diffuser juste un extrait. Il faut voir le spectacle dans son intégralité, hein, apprécier les sketchs dans la longueur. Je vous donne quand même un aperçu. Là, il raconte l'éducation féministe que sa sœur inculque à sa nièce.
Bah, ma sœur, elle la forme. Laisse tomber. C'est trop beau. Tout le temps, je la vois, c'est ma nièce, elle pose des petites questions en mode « Maman, est-ce que les filles, elles ont le droit de faire du foot ?» Je vois ma sœur, elle est directe en mode « Ok, opportunité d'une leçon fondamentale !» Elle a vraiment posé cette question-là, ma nièce. Ma sœur, elle était genre « Mais bien sûr que tu peux faire... » Attends. C'est pas parce que t'es une fille que tu peux pas faire du foot ou quoi. Tu peux faire ce que tu veux. Tu comprends? Tu peux faire ce que tu veux. Laisse tomber, ma nièce, elle était genre « Allez !» Mais bien sûr que je peux faire ce que je veux, je peux faire du foot. Et du coup, tu sais quoi, je crois que je vais manger une deuxième danette. Non. Rien à voir, en fait. Pas du tout ce que je voulais dire.
Bon, alors, voilà, il faut le voir dans l'intégralité. Hein. C'est pas un humoriste à punchline.
Mais il y a des gens qui aiment les humoristes à punchline. Et
alors,
là...
J'en ai un à vous conseiller, ou à Lydia, sans hésiter, c'est une machine à vannes, 1000 à la minute. Vous n'avez pas fini de rire à la première blague, que la deuxième est déjà terminée, je casse le plexi du studio au passage. Donc la salle est hilar tout du long, c'est un mélange d'humour autour de l'actualité dont il se nourrit et de grands thèmes très sérieux en apparence, comme la colonisation, le terrorisme ou encore le racisme anti-blanc.
Il y a une nouvelle forme de racisme en plus qui arrive en ce moment, le racisme anti-blanc. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, je suis à moitié blanc, hein. Je fais partie de la communauté, d'accord? Oui, on me rejette des fois avec cette petite phrase « Tu viens d'où ?» Je viens d'où, je viens d'où, je suis des fruits et légumes pour que tu saches d'où je viens, moi, t'as besoin. Et j'ai essayé d'analyser le racisme anti-blanc, tu vois, je trouve que pour qu'un racisme n'existe vraiment, il faut qu'il y ait des discriminations, tu vois. Être blanc en France, ça t'empêche de faire quoi? À part de gagner un marathon s'il y a un Kenyan. Bon, là, fallait faire du ski, tu vois, mais sinon, il n'y a pas, tu vois, je veux dire, ça, c'est pas un handicap social d'être blanc en France, ça t'empêche pas de trouver un boulot, ça t'empêche pas de trouver un appart. On n'a jamais vu un proprio d'appart dire « Famille Dupont-Martin ? » Je crois que ça va coincer, là. Non, on va partir sur la famille Koulibaly, c'est plus sûr.
Voilà, donc c'est Walidia et son spectacle Ensemble ou rien.
Il était venu à ce micro, il avait été brillantissime.
Exactement.
Vous nous aviez promis 3, si on enlève...
Vous savez compter, c'est bien.
C'est écrit sur ma feuille, vous m'avez beaucoup aidé. Quel est le dernier humoriste que vous avez à nous conseiller, Louise?
C'est Maxime Gasteuil, qui m'a beaucoup fait rire d'ailleurs pendant le confinement avec sur son compte Instagram. Et là, c'est le thème de son spectacle qui était une grande réussite. Alors, il utilise une bonne vieille recette pour faire rire, jouer sur les différences entre Paris et le reste de la France, la province, comme disent les Parisiens. Alors, ça ne paraît pas très novateur sur le papier, et pourtant, ça marche extrêmement bien, car c'est fait avec beaucoup de talent et d'énergie.
Par contre, il y a un vrai délire entre la province et Paris pour sortir, on est d'accord, hein ? Ça n'a rien à voir. Les boîtes de nuit de province, déjà, pour les trouver, c'est plus facile qu'une boîte de nuit à Paris. À Paris, elles sont dans des appartements, en sous-sol, on sait jamais. Alors qu'en province, c'est pratique. Même si demain, je vais à Rouen, c'est pas ma ville. Mais t'es sur une départementale ou une nationale, il est 1h30 du mat, t'es nuit noire. Toujours en province, à l'horizon, il y a toujours un faisceau lumineux dans le ciel. Là. Oh putain, il y a un Macumba quelque part, les gars. Là. Moi, je suis arrivé à Paris, je me suis fait baiser, putain. Faisceau, la tour Eiffel. Allez, me couille.
Voilà, on se reconnaît forcément à un moment ou un autre dans un sketch, qu'on soit provincial, parisien ou encore plus, si comme lui ou moi, vous êtes né en région et vivez à Paris. Il faudra voir s'il arrive à se renouveler quand même pour la suite.
Et alors, le mot de la fin?
Retourner dans les salles parce qu'elles sont pleines de talents et qu'il faut les soutenir.
Merci beaucoup, je rappelle. Donc, Laurence Yama, le trio, hein, le tiercé, Walidia et Maxime Gasteuil. Merci beaucoup, Louise Bernard. Dans un instant, Culture Média continue évidemment notre quatrième indispensable, pour tout savoir des titres qui vont cartonner cet été. Le tube de l'été, ça sera quoi? Réponse avec Angèle Châtelier et ses platines, juste après ça.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
La suite de ce best-of, c'est l'été qui arrive, le tube de l'été. Angèle Châtelier, bonjour.
Bonjour Philippe.
Alors les tubes de l'été, on voudrait savoir, on les connaît, on va savoir ce que ça va être maintenant.
Oui, mais je vous propose un petit blind test d'abord.
Il y a la réponse la chanson.
C'est facile. Je le taxi, tube de l'été 87. Allez, un autre.
Moi, je connais. C'est générationnel.
C'est les Rubettes, exactement. Sugar Baby Love, qu'on connaît aussi en version Dave. Hein. Ça, c'est le tube de l'été 74. Alors, je crois aussi qu'on peut aisément dire que toute la discographie d'ABBA est un tube de l'été en soi.
C'est un tube de l'été.
Et oui, et tube de l'été 1980.
D'accord. Le titre ?
Le titre, The Winner Takes It All, élue chanson préférée d'ABBA en Grande-Bretagne aussi.
Mais alors, c'est quoi le vrai tube de l'été ? Parce que là, tout ce qu'on vient d'entendre, c'est quand même assez divers, étrangement.
Oui,
enfin, pas étrangement d'ailleurs, c'est assez
vrai.
Divers.
Alors, il n'y a pas vraiment de recette pour faire un bon tube de l'été, mais il y a des ingrédients qu'on retrouve dans la plupart. C'est ce que m'a expliqué Jean-Marie Potier, qui a écrit le livre « Sans un tube de l'été ».
Ça va des rythmes dansants, parce que, évidemment, l'été, on aime danser, on aime faire la fête. Il y a aussi des paroles légères, qui essayent d'être insouciantes, qui parlent d'amour, de rencontres, de flirt, de vacances aussi.
Vous avez reconnu la lambada.
Celui qui ne reconnaît pas, voilà. Il a un problème.
Alors, on a parlé d'ABBA, on a parlé des Rubettes, de Vanessa Paradis, des tubes qui ont cartonné parce qu'ils étaient martelés sur les radios. Or, depuis une dizaine d'années, c'est sur les plateformes de streaming que l'on consomme de la musique. On peut écouter ce qu'on veut, on fait des playlists. Alors, des tubes de l'été, il peut y en avoir plusieurs par année. L'année dernière, par exemple, on peut en retenir deux. « Balance ton quoi » d'Angèle et puis « Pookie » d'Ayana Kamara.
Bla, 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 Pookie. Ferme la porte à la Pookie dans le sac. Bla 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 Pookie, ferme la porte à la Pookie dans le sas. Pookie, 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 ferme la porte à la Pookie dans le sas. Pookie, 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 ferme la porte à la Pookie dans le sas.
Alors maintenant, c'est la question difficile. Pour cet été, Angèle, vous pariez sur quoi ?
Alors, en tout cas, Jean-Marie Potier lui parie sur une chanson qui serait Habibi de Kenji Girac. Vous allez l'entendre, il y a des rythmes dansants et ensoleillés.
Il y a Jérémy Hébert, il est à fond, il danse devant la console, il a déjà fait une vente.
Voilà, visiblement c'est un tube de l'été. Alors concernant mon petit pronostic, je serais prête à parier sur Lady Gaga. Son sixième album Chromatica est techno et dansant, il est sorti fin mai. Il a déjà été vendu à 300 000 exemplaires et son tube Stupid Love cumule déjà des millions d'écoutes.
Merci, vous voulez faire un commentaire mademoiselle?
Ah j'adore.
Voilà.
Je suis d'accord pour Lady Gaga.
Voilà. Ouais. Merci beaucoup Angèle et aussi pour cette saison en votre compagnie.
Merci.
J'étais très heureux, c'était un plaisir de vous entendre, de découvrir avec vous des artistes, grâce à vous, des nouveaux albums. Et grâce à tous ces titres sélectionnés par vous, on a pu connaître vos goûts musicaux, mais également, comment dire, vos émotions les plus intimes et même votre perception du monde.
S'il y a bien un sentiment qui appartient à tout le monde, bah c'est le chagrin d'amour. Un titre qui parle d'une relation amoureuse passée, un peu douloureuse. Elle y dit « Je ne sais pas où nous nous sommes trompés, mais je sais qui est parti. » On le sait, oui, généralement. Ça doit être difficile. « Somewhere Only We Know » de Keane. Osez l'avouer, ce titre a peut-être été votre meilleur partenaire de karaoké ou de rupture. C'est divin.
Wow.
Et c'est un album doudou, comme j'aime l'appeler. Ah oui. C'est celui qu'on écoute un peu regardant la pluie tomber. Vous voyez un petit peu ce que c'est, Philippe?
On a dit. C'est envie de se tirer une balle, c'est ça? Non.
Voilà.
En général, elle aime les trucs dépressifs. Angèle, vous n'êtes pas divorcée.
Non, ni mariée d'ailleurs.
Je suis fan de Neil Young, je ne suis pas déçue. Et Angèle, vous avez quand même trouvé le moyen de parler de séparation.
Oui, bah, les hommes aussi ont des peines de cœur.
C'est
ma spécialité. Non,
mais... Alors, est-ce qu'elle a fini, au final, par trouver la solution pour bien vivre une rupture?
Bah, j'aurais été preneuse. Hein. Et si, comme beaucoup, vous vivez une rupture amoureuse, déjà, on pense très très fort à vous.
Toi, tu dois avoir un chat.
J'ai un gros chat roux, effectivement.
J'ai eu peur que tu me dises que tu avais un chien, parce que pour moi, le chien, c'est l'étape après le chat, et généralement, il n'y a plus grand monde qui passe à la maison.
Alors non pas que je veuille vous miner le moral dès le matin, mais Ayo a accouché de cet album après une période de dépression, parce que oui, c'est... pardon, non, non, mais écoutez... Non, mais
on voudrait faire exprès, on n'y arriverait pas.
Vous connaissez cette statistique absolument terrible, plus une femme est lettrée, moins elle a de chances de rencontrer un compagnon.
Oui, c'est réel. Et
je... Il y a Angèle Châtelet qui est avec nous, qui sourit, et je pense qu'Angèle a des diplômes. Vous avez quoi comme diplôme?
Enfin, suffisamment pour pas avoir de mec, voilà.
Mais quel bonheur, Angèle.
Non, bah, voilà, mon Twitter. Hein, voilà.
Mais c'est vraiment magnifique. Et vraiment, Louise Bernard pour le montage, vraiment, vraiment, merci.
Avec Jérémy. Bon,
merci beaucoup. Ouais.
Vraiment, c'était magnifique de vous avoir. Vous serez là à la rentrée.
Oui, bah,
hein, je vous demande pas avec qui. Voilà, merci d'avoir été. Ouais, et on va entendre ce qui nous fait danser
oui,
cet été.
Même,
ça, c'est joyeux, voilà, c'est joyeux. Il n'y a pas de séparation là-dedans.
Non, il n'y a pas de séparation. Voici Stupid Love de Lady Gaga.
Ah, quand même, Stupid Love.
Stupid Love, c'était Lady Gaga sur Europe 1 et peut-être le tube de l'été. En tout cas, ça semble bien parti quand on regarde la régie qui danse, on se croirait au Macumba. Dans un instant, notre cinquième indispensable du jour avec Laurent Mariotte. Direction nos cuisines pour des idées et recettes à base de tomates. A tout de suite.
Europe 1 Culture Média.
Le dernier indispensable du jour et de l'année ou de la saison. Je suis triste que ça se termine. Bonjour Laurent Mariotte.
Bonjour Philippe Vandel. Bonjour tout le monde.
Laurent, vous êtes venu avec votre manche-disque.
Mange des tomates, mon amour. Mange des tomates nuit et jour.
Blague à part, vous avez eu un manche-disque?
J'ai eu un Tepaz, mais le manche-disque, c'est arrivé après même déjà.
Dis donc.
On est âgé. Hein.
Ouais, on les attend depuis des mois, la récompense ultime pour ceux qui ont resté en boycottant les tomates hors sol. Ça y est, ce sont les vraies tomates de pleine terre.
Exactement, les vraies, vous avez raison. Faut
ça fait
saluer.
Partie de votre combat à l'année.
Oui. Et il faut saluer ceux qui n'ont pas justement mangé des tomates cultivées hors sol, qui n'ont pas de goût, qui sont cultivées uniquement pour le calibre et puis pour pouvoir tenir la conservation dans la grande distribution et qui sont dures comme du bois. Voilà, ça ce sont de vraies tomates cultivées en pleine terre.
Vous les avez avec vous? Alors déjà, première question, comment on les reconnaît? Comment on le sait?
Alors les variétés déjà, et puis voilà, tâtées, elles sont molles, donc elles ont... Voilà, une vraie bonne tomate, elle est molle déjà. Et les tomates hors sol, on les récolte avant qu'elles soient molles.
Ah, elles peuvent rouler dans les escaliers, on peut les remettre dans le sachet.
Il n'y a pas de problème. Allez-y, tâtez, ça c'est la tomate poivron.
Ouais.
Et ça c'est la vraie de bœuf, vous voyez. Alors, vous me dites comment on les reconnaît, les tomates cultivées en pleine terre? Elles sont un petit peu biscornues, parfois elles peuvent avoir quelques meurtrissures. Voilà, elles sont pas forcément.
Moi, je les reconnais une chose, c'est qu'elles se ressemblent pas entre elles. Elles sont pas calibrées.
Là, il y a de la noire de Crimée, exactement. Le calibre n'est pas le même. Il y a de la green zebra, il y a de la tomate poivron qui est amusante.
Non, mais je dirais que même dans des noires de Crimée, elles ne ressemblent pas entre elles.
Oui.
Elles ont des têtes différentes.
Et vous avez raison, parce qu'il y a des petits malins maintenant qui utilisent les variétés anciennes pour les faire en tomates hors sol, pour nous faire croire qu'elles sont cultivées en pleine terre et pas du tout. Elles restent dures comme du bois et elles n'ont pas de goût.
Ouais. On n'est pas parti pour faire un documentaire sur la tomate,
non,
on est parti pour savoir quoi faire à déjeuner ou à dîner cet été, Laurent.
Tomate partie, Philippe Vandel. En entrée, une panzanella, une salade italienne. En plat, évidemment, des tomates farcies. Et en dessert, rebelote, des tomates farcies, puisque la tomate est un fruit.
Ouais.
On va
en
la travailler comme telle, avec des fruits rouges à l'intérieur. Oui.
Ouais.
Ah bon.
Pas de
chair
à saucisse, hein, je vous rassure, Louis.
Gardez vos arguments. Alors d'abord, l'entrée.
Alors l'entrée, c'est la panzanella. C'est une recette paysanne toscane qui est faite uniquement avec du pain rassis au départ, qui est imbibé avec de l'huile d'olive et du vinaigre. Eh bien, on fait cette salade en Italie maintenant qui est délicieuse. Des tomates coupées en cubes, vous prenez du poivron, pareil. Tomates pas trop molles, là pour le coup. Et vous allez alterner dans votre saladier ces tomates coupées en cubes avec le concombre, et c'est des de croûtons de pain rassis imbibés d'huile d'olive et de vinaigre. Et vous alternez comme ça et vous finissez par du basilic et de l'huile d'olive. C'est une sorte de grande salade comme ça à manger, et il y aura des textures différentes entre la tomate et le pain rassis, et c'est très très bon, et c'est très désaltérant en été ça.
Et alors là, je me suis dit, vraiment, Laurent Mariotte, il doute de rien, sur ma feuille, il m'a mis en deux le plat tomate farcie inratable et farce de compétition.
Oui, farce de compétition. Alors, il y a plein de façons de faire la farce. La vraie, c'est la chair à saucisse, la bonne chair à saucisse qu'on va acheter chez le boucher, qu'on va relever avec de l'ail, de l'échalote, du sel, du poivre. On va mettre à l'intérieur la chair des tomates qu'on aurait évidées. Là, pour les tomates farcies, on prend de belles grosses tomates qui sont généreuses, qui sont accueillantes. On met un petit peu de ce jus à l'intérieur de la chair à saucisse et on la parfume. Ce qu'on peut faire aussi, puisque c'est la saison des barbecues, avec les restes de poulet grillé au barbecue, de merguez ou de saucisse, on fait une farce. Et ça, c'est délicieux. Pareil, on remet la tomate aussi à l'intérieur, le jus de la tomate évidé, sel, poivre. On farcit ces tomates et là, vous comptez 1h30 de cuisson.
On met tout au four. On met tout au four. Cuire un avant l'autre.
Non, on met tout au four, la chair à saucisse, enfin la farce dans la tomate, et on met ces tomates sur du riz avec un petit peu d'eau et le jus rendu par la tomate à la cuisson pendant 1h30 à 180 degrés va nourrir votre riz, il va le parfumer, vous aurez un riz qui sera cuit en même temps que la tomate.
Mais alors attention, parce que tout à l'heure le procureur c'était Margot Barallon, cette fois-ci le procureur c'est Louise Bernard, et tomate en dessert.
Oui, tomate. Bah,
la tomate... Enfin, ça m'a étonné, parce que effectivement on pense chair à saucisse, mais, oui, non, mais la avec tomate des fruits,
est,
pourquoi pas.
La tomate est un fruit, donc on va prendre de belles tomates, de la rose de Berne par exemple, c'est une variété ancienne qui a une peau très très
fine. Oui, mais
fine.
C'est quoi la recette?
Ah bah c'est des tomates farcies avec des fruits rouges à l'intérieur.
Ah.
On va évider la tomate farcie quand même. On va évider la rose de Berne. On garde la chair pour faire autre chose, pour faire un gazpacho par exemple. Et à l'intérieur, on va mettre un sirop avec du sucre, de la menthe et un petit peu d'eau. On les imbibe comme ça, on les met une demi-heure au frigo. Et ensuite, on les remplit, après avoir retiré le sirop qui était à l'intérieur, qui les aura parfumés. On les remplit avec des fruits rouges, des framboises, des fraises coupées en morceaux, des myrtilles, tous les fruits rouges, des groseilles qui vont apporter une petite note acidulée. Et on remet du sirop par dessus.
Les recettes, on les trouve où ?
Eh bien, sur europe1.fr, sur mon site, voilà, un peu partout.
Merci Laurent, merci à tous. Et avant de vous quitter, je voudrais juste dire un petit mot. On a vécu vraiment une année particulière, la naissance de l'émission le 26 août, des invités qui viennent, des audiences qui montent, qui grimpent, et puis le confinement, des annulations pour une grande partie du monde de la culture, et des chiffres records pour la télé et les Français accros aux médias, et une nouvelle façon de travailler à distance, mais avec vous. La vie, c'est ce qui arrive quand on avait prévu autre chose, disait John Lennon, et je peux vous dire qu'on a beaucoup vécu cette saison. Je voudrais remercier toute l'équipe qui a concocté et qui concocte cette émission avec moi jour après jour. J'ai fait par ordre alphabétique. Louise Bernard, qui est ici, Magali Buteau, Martin Cangelosi, Pauline Chatanier, Céline Dacosta, Laure Gignès, Jérémy Hébert qui danse en régie, Alexandre Omar, Cyril Lacarrière qui est parti avec Tom Leb, Hélène Manarino, Lise Pressac et Nicolas Souvent qu'on embrasse. Et puis nos indispensables, Margot Barallon, Nicolas Caro, Mathieu Charrier, Angèle Châtelier, Solitaire, Laure d'Autriche, Thierry Geffrotin, Clément Le Saffre, Laurent Mariotte, ici présent, et ses tomates, Clément Solivier, Bernard Poirette et Marion Sauveur, également Constance Benquet et Donna Vidal-Revel qui ont fait le pari d'une émission de 2 heures médias et culture, émission qui va revenir à la rentrée et qui revient lundi avec Pascal Clark. Dans un instant, place à Anne Romanoff et toute sa bande, juste après ça. Merci à tous et toutes.